19h-20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue en ce jour d'épiphanie. Et oui, mercredi 6 janvier 2021 et dans cette émission sur l'antenne de Beurre FM, on verra l'avant-match entre les Stéphanois, la Saint-Étienne qui rencontrera ce soir le Paris Saint-Germain, sans oublier aussi l'Olympique de Marseille face à Montpellier. Mais aussi, à travers cette émission, on aura un magnifique livre, on parlera de ce livre dans la chronique littéraire de Toto Bellozzo, L'argent du foot. Et oui, L'argent du foot, concocté par Luc Arondel et Richard Duhautois aux éditions C'est Mes Prap. Mais aussi, Kylian Mbappé qui n'est plus le joueur le plus cher du monde. On abordera les rumeurs, les infos concernant ce fameux mercato d'hiver en France et donc à l'étranger. Et vous restez tout de même toujours avec nous sur l'antenne de Beurre FM, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, toujours plus nombreuses et nombreux à nous écouter chaque soir, sans oublier aussi les replays, les podcasts sur le site internet beurrefm.net. N'oubliez pas le 01 53 48 3000 pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport. Yanis, notre réalisateur, se fera un plaisir de vous faire passer à l'antenne, mais aussi sur la tutosphère, Farid Rouas, notre CM, toujours là, prêt à dégainer à l'info. C'est parti, Google Time Sport.
Time Sport.
Et ce soir, avec moi, pour m'accompagner, on aura le coach Tolé. Comment ça va?
Salut tout le monde, impeccable, bien.
Oui,
bien rasé.
Toto Bellozzo est avec nous. Salut, et il nous a apporté une magnifique galette des rois.
Et ouais, bah, il fallait forcément marquer le coup.
Hein, ouais. La régalade.
C'est ça. Exactement. Toujours le beau jeu.
Il distribue et à la radio.
On a eu un roi.
Ah oui, le roi.
Qui est?
Et qui est? Non, Valentin. Non, c'est pas toi le roi.
C'est pas moi, c'est pas moi.
Ouais.
C'est pas
lui. Bonsoir Valentin, comment ça va? Une belle année aussi.
Au top. Beau programme ce soir, donc je vais me faire un plaisir de discuter avec ce beau groupe ce soir.
Ouais.
Et puis je te confirme, j'ai pas eu la fève.
Et avec son Altesse, et c'est Abdel, c'est le roi.
Ouais.
Ah ben ça mérite des applaudissements. Bravo.
Merci,
Abdel. Et moi? Alors Abdel,
on me respecte.
Comment ça
là.
Va?
Ah, on te respecte. Ça va très bien, Bilal. Très bien. Très content d'être là. J'en profite pour passer deux messages.
Alors,
un petit bonjour à Sébastien.
Sébastien,
qui était,
oui.
Mon goal quand j'étais à l'université là.
Aïe aïe aïe. Et, Sébastien Frey.
Une petite pub là pour ce soir.
Ouais. Serai,
sur l'Instagram de Lamal El Pistolero pour les résultats du concours et la présélection. Donc voilà, vous êtes les bienvenus et impatient que l'émission débute.
Ah ben c'est super, on va débuter cette émission avec le premier sujet concernant les Titi parisiens et aussi les Stéphanois.
Time Sport, le ras-le-bol.
Et sans Florenzi, Kimpembe, Kurzawa, Bernat, Danilo, Paredes, Neymar et Icardi, tous à l'infirmerie, Valentin. Tandis que Rafinha a été testé positif à la Covid-19. Quel 11 pour cette première de Mauricio Pochettino sur le banc, avec peut-être Verratti en 10. Il y en a qui se sont marrés, mais je crois que ça va être une vérité.
Bah, là, Pochettino débute pas dans les meilleures conditions. Là, il connaît ce qu'a connu Tourelle pendant un certain temps. Et selon quelques indications, comme tu as dit, Verratti devrait débuter en 10. Et puis avec une défense remaniée, parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui se sont blessés fin décembre. Kurzawa, Kimpembe et tu as dit déjà...
Il y a Diallo qui est pas là.
Ouais. Voilà. Donc là, ça sera Marquinhos avec Kerrer, Dagba, Baker normalement. Et puis au milieu de terrain, Herrera et Gay qui devraient accompagner Verratti. Et puis Moïse Kean avec Di Maria et Mbappé en pointe. Donc ça c'est les indications que j'ai pu voir. Après on verra ce soir. Mais en tout cas Pochettino, on va voir les premiers signes. Je vais pas dire de sa patte parce que ça fait que quelques jours qu'il est là. Mais
on attend beaucoup de lui, Valentin.
On attend beaucoup. On attend
vraiment,
aussi surtout
ancien parisien
qui donne une identité à ce club, une identité de jeu qu'on n'a pas vu depuis 2 ans et demi. Et c'est ce qu'on attend le plus de Pochettino. Alors certes, dans un club avec de grandes stars comme ça, c'est compliqué de mettre en place quelque chose, surtout à la mi-saison.
Ouais.
Les matchs vont s'enchaîner, double confrontation contre Marseille, double confrontation contre le FC Barcelone. Donc c'est délicat. Faudra pas lui tirer dessus dès le début parce que c'est compliqué de commencer de cette manière. Mais en tout cas, sur les quelques mois qui vont suivre, on verra déjà les premiers signes de Pochettino.
Malheureusement,
c'est vrai que il commence pas dans les meilleures conditions, mais je pense qu'il sera. C'est pas jugé directement, mais les supporters quand même attendent quand même de voir ce qu'il peut proposer. Il y a quand même un effectif de qualité. T'as donné la composition de tout à l'heure. Surtout que bon, ils affrontent Saint-Etienne qui est assez malade. Après ouais. Bilal, tu parlais de Verratti qui est
alors,
numéro 10. Ça surprend, mais bon.
C'est vrai.
Ceux qui le connaissent d'avant à Pescara, c'est vrai qu'il a été formé un peu plus haut. Donc ça peut être intéressant pour tous ceux qui disent peut-être qu'il a pas assez un volume de jeu impressionnant pour notamment pour jouer devant la défense. Après la composition qui est donnée, c'est pas mal. Je pense que les premiers indicateurs.
Tu es confiant, Abdel? Sérieusement?
Je suis confiant.
Ouais,
oui et non.
En fait, de Pochettino,
j'attends de voir. Moi, je suis pas forcément fan du coach en lui-même. La chose qu'on pourrait peut-être voir, c'est avant la patte et de parler de ballon, c'est les kilomètres parcourus. Tout le monde dit que il a la capacité de faire courir plus ses joueurs, de les faire instaurer un pressing, etc. Donc déjà avoir un œil sur ça, parce que si tu cours contre Saint-Etienne et que tu fais gagner des kilomètres à tes joueurs, forcément dans les matchs en jeu, tu vas le faire aussi, parce que tu auras encore une envie décuplée de gagner les matchs. Je parle notamment du match contre le FC Barcelone qui va approcher. Maintenant, c'est une première, comme toute première. Voilà, on va être peut-être clément, mais il faudra voir ce qui met en place. Et l'équipe sur le papier reste assez correct pour pouvoir s'imposer là-bas.
Toto Bellozzo, les Parisiens en terre stéphanoise.
Bah écoute, ouais. Concernant l'effectif du Paris Saint-Germain, je pense que le coach parisien Pochettino arrive dans un effectif qui est diminué, et moi je me dis finalement peut-être tant mieux pour lui. Ça va peut-être lui permettre de pouvoir instaurer certaines choses sans avoir déjà par passé par le fait de, on en a déjà parlé dans l'émission, de peut-être casser un petit peu la dynamique de l'équipe qui tourne beaucoup autour de Neymar et Mbappé. Et là, pour le coup, d'instaurer quelque chose et de montrer que ces idées fonctionnent sans forcément que ces deux joueurs soient déjà présents d'emblée. Et ça aidera peut-être finalement à ce que, quand Neymar sera de retour, à devoir s'adapter à ce qui a déjà été mis en place avant son arrivée. Donc moi, je me dis, bon, bah finalement, il arrive, alors comme on dit, avec un effectif réduit, mais avec l'avantage de pouvoir peut-être mettre en place ces idées un peu plus facilement que s'il y avait eu tout l'effectif directement en place. Maintenant, ce qui concerne l'effectif de ce soir en lui-même, c'est que ce soir, on va avoir un Marquinhos qui est vraiment aujourd'hui le vrai patron de la défense. Hein, il fait figure vraiment de figure de proue au milieu des, on va pas dire d'une défense pas expérimentée, mais peu expérimentée dans le temps. C'est vrai que Becker, Dagba, Marquinhos et Kerrer. Bon, c'est pas on l'a quasiment jamais vu, et aujourd'hui, bon bah Marquinhos, il a ce rôle de devoir être l'organisateur, et c'est ce qu'on attend de lui depuis toujours. Concernant Verratti, moi je suis assez content de voir que finalement on va lui donner ce rôle d'organisateur dans le jeu, parce qu'il a cette capacité. Ouais. Il a cette créativité, mais cette créativité qui était peut-être
toi, tu un y peu penses aussi comme Abdel.
Trop basse sur le terrain, et là aujourd'hui, on va peut-être lui demander d'être un peu plus offensif, un peu plus créateur.
Ouais,
et ça peut être dans son registre.
Bien sûr. Le coach Tolé, c'est parisien. Ouais. Avec cet Étienne.
Oui.
Ouais.
Ouais, bah, Saint-Etienne, on a évoqué pas mal d'absents du côté du Paris Saint-Germain. Bah, ça peut être le bon moment aussi pour Saint-Etienne de se relancer, qui a été en difficulté durant la première partie de saison, qui a relevé un petit peu la tête avant la trêve. Maintenant, faut pas non plus tout de suite, faire une analyse sur la rencontre de ce soir. Il manque tellement de monde.
Le premier match de Pochettino.
En même temps, lorsque
le PSG doit être grand.
En même temps, lorsque tu es le Paris Saint-Germain, il y a pas que deux joueurs. T'as un effectif de 20 joueurs. Tu dois être capable de concerner tout le monde. Et là où je rejoins Toto, c'est que ça va être une bonne chose dans la mesure où justement tu.
Et il appelait les jeunes aussi. Hein.
Tu permets à des joueurs. Simons. Bah de montrer de quoi ils sont capables. Et lui, il a montré par le passé, Pochettino, que quel que soit ton statut, si t'es bon, si t'es capable de faire le job, tu auras
ta chance.
Tourelle aussi le faisait, on n'en parlait pas, mais il le faisait aussi pas mal. Il a été en difficulté, oui, là c'est la même difficulté qu'avait Tourelle aujourd'hui. Bon, voilà, maintenant faut faire avec, mais faut surtout prendre les points du côté du PSG, qui n'est certes qu'à un point, mais qui n'est pas dans la situation classique où habituellement on a l'habitude d'avoir le Paris Saint-Germain en train de survoler la Ligue 1, ce qui n'est pas le cas pour le moment.
Moi, je voulais revenir sur ce qu'Abdel avait dit.
Les Parisiens.
Moi, je pense que ça va être compliqué de demander aux Parisiens de courir. C'est la presse anglaise d'ailleurs qui l'a dit, que c'était étonnant de voir Pochettino entraîner le Paris Saint-Germain, surtout avec ses stars, donc Neymar et Mbappé, demander à ses joueurs de fournir des efforts, parce que Pochettino, lui, il demande, on l'a vu à Tottenham, de fournir des efforts collectifs. C'est beaucoup de pressing. Et on connaît la réputation du Paris Saint-Germain et surtout de ses stars en attaque de pas fournir ses efforts. Donc moi j'ai un doute là-dessus, mais par son relationnel et ce qu'il essaye de créer avec ses joueurs, c'est-à-dire cette relation père-fils comme il l'a eu avec certains joueurs à Tottenham, peut-être qu'il peut il peut les motiver dans ce sens-là.
Alors, vas-y Claude. Alors ouais.
Si je peux me permettre, les gars sont soi-disant des stars quand j'entends Neymar, Mbappé. Moi je regarde toutes les grosses stars, on va prendre des clubs comme Liverpool qui ont t'as Salah, le pressing ils l'ont fait. Harry Kane, Tottenham, il l'a fait.
En quoi et au nom de quoi
les vrais gros joueurs l'ont fait. Donc il y a un moment t'as envie d'atteindre des objectifs, tu fais le job.
Ah mais s'ils le font pas, et on a vu les performances de Liverpool depuis quelques années, c'est aussi par là que ces joueurs comme Mbappé, ils doivent se diriger vers ce genre de
choses. C'est même pour ça que je dis, moi je trouve ça super positif que on va dire les joueurs un peu cadres que sont Neymar et Mbappé. Bon, Mbappé est là ce soir, mais justement que ceux qui sont derrière ces joueurs-là montrent l'exemple. Pour le coup, on a eu des joueurs sous l'ère Touré qui étaient très attentistes de ce duo. Maintenant, c'est à eux de montrer la voie à travers ce que Pochettino va demander, de montrer la voie à Neymar et Mbappé, de dire, bon, écoutez, maintenant, alors, on a un style de jeu qui demande des efforts.
Toto Bellozzo, Abdel, justement.
Surtout par rapport à ce qu'il
dit. On a un auditeur, si je peux intervenir, à Abdel, qui nous dit, est-ce que Verratti sera prêt à courir autant?
Oui, pour moi.
Autant qu'en 10.
Ouais.
Excuse-moi, oui. Mais tu cours beaucoup plus lorsque tu es dans une position reculée qu'en numéro 10. Hein.
Ouais,
ah bah déjà pour commencer. Ah bah oui.
Non mais pour moi je pense que autant c'est un grand mot. Après juste par rapport à ce que dit Valentin, pour moi,
alors
le fait de déjà leur instaurer peut-être de dire à la perte du ballon, on va presser directement.
Justement,
peut-être
il y a un contre-pressing. Je sais pas
ouais, mais c'est plus ça, mais presser haut et récupérer la balle plus haut. Les mecs qui se disent, on va pas aller dans notre camp courir après le ballon, etc. Peut-être instaurer et insuffler cette chose-là. Je pense que ça peut être intéressant.
Ouais, d'une manière plus cohérente et fine.
Ouais. Après, on leur demande pas de courir plus 12 kilomètres par rapport aux autres rencontres. Déjà, qui gagnent 2-3 kilomètres parce que il y a un match qui avait été comparé, je ne sais plus lequel, mais il y avait 11 kilomètres d'écart entre le PSG et son adversaire. Ça fait 1 kilomètre par joueur. Donc c'est énorme. Mais je pense que il va réussir à inculquer ces choses-là. Après, comme il le dit Claude, pour moi, quand tu as des objectifs, et je l'ai répété maintes et maintes fois ici dans cette émission, alors, quand tu as des objectifs, eh ben, tu te bouges. Et c'est pas au coach forcément, même s'il doit te faire passer un cap, c'est toi qui dois prendre conscience que tu dois aider l'équipe. Et pour aider l'équipe, c'est pas que marquer des buts ou faire des passes, etc. Faut cavaler avec le groupe. C'est 11 mecs, sinon tu crées des décalages et tu prends des buts et ça va vite 1-0, t'es éliminé.
Là, pour rejoindre ce que dit Abdel, c'est que à un moment, ce sont des joueurs pros, ils savent très bien que lorsque t'es sur un terrain, il y a le jeu avec ballon et le jeu sans ballon. D'accord. Maintenant, après, c'est parce que ce sont des joueurs qui ont intrinsèquement ont toujours fait des différences, donc c'est ce qui a été mis en avant. Mais ça, ils le savent.
L'équipe, c'est pas nouveau. Dans ce cas-là, l'équipe, elle est démembrée. Et si t'as seulement 7 ou 8 joueurs qui font les efforts, c'est pas efficace. C'est comme s'ils couraient dans
le. C'est comme tout. Mais c'est 10 joueurs que tu vois. C'est 10 joueurs. Après, comme le dit Abdel, lorsque tu es au poste, tu sais, les postes offensifs, on te demande pas de courir, mais on te demande au moins déjà d'exercer de coulisser ensemble pour empêcher une relance, pour éviter de trouver un décalage, etc.
Le premier défenseur d'une équipe, déjà, c'est l'attaquant. Ouais. Donc, si l'attaquant.
Cavani, vous êtes très bien. Cavani,
si l'attaquant ne fait pas l'effort, déjà, c'est mal parti.
Mais combien de fois,
je vais juste rebondir sur ce que tu disais. On a déjà eu cette problématique à l'époque d'Emery, qui justement avait un petit peu ce style assez vertical, de jouer direct. Et finalement, ce style n'a jamais pris. Une fois, il a pris. Le match aller contre le FC Barcelone, et on connaît le résultat, ça a été un des plus beaux matchs du Paris Saint-Germain de l'ère qatari. Et c'est vrai que les idées de Pochettino vis-à-vis de cet effectif, moi j'attends vraiment de voir quelle transition
sur la durée.
C'est vrai, parce que en parlant de système de jeu, même si tout est modulable et ce que vous voulez, Paris dans l'histoire, c'est très rare qu'ils aient évolué en 4-2-3-1 pur. Ils ont eu 4-3-3, 4-4-2, etc. 9,5, c'était pas vraiment avec des 10, etc. Donc, le fait que Pochettino, ce soit son idée, de jeu. J'aimerais voir si ça peut perdurer, parce qu'on se souvient avec Emery, ils ont commencé en 4-2-3-1.
Il avait voulu mettre le 4-2-3-1 avec notamment Pastoret qui avait flambé en début de saison.
Ils sont
avant
vite
de,
venus toquer avant pour passer en 4-3-3. Et c'est alors, plus ça aussi les enseignements, voir s'il maintient son système de jeu, peut-être une capacité d'adaptation sur un premier match. Mais honnêtement, je pense que voilà. Pour
Mourad de l'auditeur nous dit, messieurs, les gars, faites quand même confiance à Pochettino, nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain.
On n'a pas dit ça, on n'a pas dit le contraire.
Il faut prendre des pincettes. Dans tous les cas, il faut avoir un équilibre, il faut pas s'enflammer non plus. Ouais. Il faut pas être trop dans la critique. Donc là, c'est ce qu'on fait dans tous les cas.
Et justement, lui, il donne la chance à des jeunes joueurs. Je vais pas dire Titi Parisien parce que lui, il a rien à voir avec, c'est un Hollandais. Par exemple, la personne de Xavi Simons dans le groupe du PSG.
Tourelle le faisait.
Ouais, aussi, quelquefois. Mais lui, il y va direct.
Tourelle le faisait, Tourelle l'a fait.
Xavi Simons.
Non, mais après, c'est que des fois, on aime bien, on aime bien taper sur le mec qui était là avant, etc. Mais le positif, on le disait pas. Tourelle le faisait, je suis désolé.
Ah ouais. Merci, le coach Tourelle. Tacle à la gorge.
Xavi Simons, c'est dans les, comment dire, c'est dans les papiers parce qu'il aurait pu évoluer plein de fois, notamment quand il y a eu la coupure des 19 nationaux, où il aurait pu évoluer avec les groupes pro. Mais c'est fait pour que, à la deuxième partie de saison, il soit intégré de plus en plus, parce que ça a été un des rares où on a été surpris qu'il soit pas justement sélectionné souvent dans les groupes.
Valentin, que dire? Xavi, Simons, rapidement avant la pause.
L'essentiel, comme j'ai dit en début,
les jeunes joueurs.
C'est l'identité de jeu. Après, c'est vrai que ça prend du temps. Moi, je pense aussi, à côté de l'identité de jeu, il y a le relationnel. Avec les joueurs, je pense que ça posera pas de problème parce que Pochettino, il sait y faire. Et la relation, surtout avec Leonardo, de toute façon, on a vu Tourelle s'est brûlé les ailes avec cette relation et ça lui a coûté son poste en partie. Hein, je dis pas que c'est seulement à cause de ça, mais Pochettino devra aussi faire des concessions. Après, on sait que quand il était à Tottenham, il laissait aucune influence sur ses choix de recrutement par rapport au propriétaire Daniel Levy. Là, ça peut poser problème, mais je pense que dans tous les cas, il a compris qu'il devra faire des concessions dans cette relation avec Leonardo.
Toto Bellozzo, rapide.
Juste pour clôturer, moi, j'aimerais dire que au-delà de recruter des coachs qui viennent pour insuffler un style de jeu, ce serait bien qu'à un moment donné, on puisse aussi se dire que les coachs viennent pour jouer aussi à la parisienne et que qu'on puisse à un moment donné définir quelque chose de clair autour de l'identité de jeu parisienne. Ouais.
Intelligent. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. Une courte pause avant de revenir avec la chronique littéraire de Toto Bellozzo. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport avec Bilal Nenman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie d'Abdel, de Valentin, du coach Tollet et sans oublier notre Toto Bellozzo. Et bien justement, je me retourne vers lui pour commencer cette magnifique chronique littéraire.
Time Sport.
Salut Bilal.
Eh bien justement, Toto Bellozzo, on va parler de l'argent du football. Eh bien ça tombe bien parce que comme ça, après, de suite, on enchaînera avec Kylian Mbappé qui n'est plus le joueur le plus cher du monde, quoi.
Exactement.
Alors, l'argent du football.
Ça, on l'abordera après, donc comme tu l'as dit, après la chronique. Et là, la première chronique littéraire de cette année 2021 que je vais vous faire, ça va être sur un livre qui a été écrit par Luc Arondel et Richard Duhautois, qui est un ami que je salue, hein, j'espère qu'il nous écoute.
On nous passons le bonsoir.
Ces deux grands spécialistes donc de l'analyse économique des chercheurs et spécialistes de la finance du sport, et notamment dans le football, ils ont écrit un très très beau livre qui s'appelle « L'argent du football ». Qui est sorti en 2018 et vous pouvez toujours le trouver, faut chiner un petit peu, bon il est plus trop disponible mais on peut encore le trouver et c'est vraiment un livre super intéressant si vous voulez comprendre les mécanismes de l'économie du football, vraiment comment est-ce que les clubs fonctionnent, comment est-ce que les droits télé et ainsi de suite. Et justement là on est en plein dedans avec on en a déjà parlé, Media Pro, les droits télévision, comment ça fonctionne et ainsi de suite. Tout est décrit dans le livre. Tout est écrit, comment est-ce que la billetterie fonctionne, comment est-ce que les clubs de Ligue 1 se rémunèrent, comment est-ce que justement, finalement...
C'est intéressant, mis à part les transferts.
Exactement.
C'est alors ça.
J'ai pas forcément envie de vous détailler clairement ce qui est dit dans ce livre, parce que c'est vraiment quelque chose, un vrai travail de recherche. Et j'ai plus envie de vous expliquer, en tout cas de vous raconter, comment est venu... cette manne financière issue des droits télévision qui aujourd'hui fait la une des journaux, puisque dans certains clubs
on en parle beaucoup,
quasiment dans certains clubs à l'échelle de 76% du budget du club, c'est-à-dire c'est énorme, c'est des clubs qui vivent sous perfusion des droits télévision. Et donc, pour pouvoir comprendre le mécanisme de cette vague incroyable qui a amené un business, notamment en première ligue, il faut remonter dans les années 80 à deux drames. Le premier, le drame du Ezel en 1985, qui a fait environ plus de 70 morts. Hein, la finale Liverpool-Juventus.
C'est ça.
Qui s'est soldée, voilà, par un drame qu'on n'est pas prêt d'oublier. Et un deuxième drame du même ordre, toujours avec Liverpool contre Nottingham Forest, le drame de Hillsborough qui a fait là pour aussi. Le coup, ouais. 96 morts et plus de 700 blessés. Donc on a eu cette grosse problématique à la fin des années 80, en milieu jusqu'à la fin des années 80, la problématique du hooliganisme. Et c'est Margaret Thatcher qui s'est penchée sur le sujet pour se dire, bon voilà, les clubs anglais ont été exclus de toute Coupe d'Europe pendant 5 ans, ça a été quelque chose d'énorme. Et de toute façon, on voulait plus avoir ce genre de drame dans le football européen et particulièrement dans le football anglais. Et Margaret Thatcher, la seule chose qu'elle a trouvée comme solution pour sortir les hooligans des stades, c'est d'augmenter le prix des places. Et finalement, rendre inaccessible aux couches les moins aisées de pouvoir accéder au stade, puisque le prix des places était extrêmement cher. Ça a eu son effet, puisque les stades anglais étaient moins accessibles. Et il y a eu un homme qui s'appelle Rupert Murdoch, qui est un homme d'affaires australo-américain, qui est un mania des médias, et qui s'est dit, bah tiens, je vais racheter les droits télé, parce qu'à l'époque, comme le championnat d'Angleterre était en plein désamour, puisqu'il n'y avait plus de Coupe d'Europe, il y avait le problème du hooliganisme, il les a rachetés pour une bouchée de pain, et il a commencé à revendre, parce qu'il s'est dit une chose, Rupert Murdoch, il s'est dit, si les gens ne vont plus au stade,
alors
ils seront forcément devant la télé, ils seront forcément au pub. Donc on aura de plus en plus de monde devant la télé. Donc ces droits télé vont prendre de la valeur avec le temps. Et c'est comme ça que
on a intensifié en quelque sorte.
Exactement.
L'économie a évolué
avec le fil des ans, avec sa chaîne.
Devenu réellement du business.
Exactement, Bilal. Et donc c'est pas Rupert Murdoch, après une décision de Margaret Thatcher, que les droits télé ont vraiment commencé à exploser en première ligue et qui a donné ce business assez incroyable qui est en train de glisser sous les pieds des clubs français actuellement.
Oui, c'est à peu près une chronologie, quoi. Ce livre, ça reste quand même, si on peut se permettre, une encyclopédie tout ce qui touche à l'économie.
Ce livre-là ne parle pas exactement de l'histoire que je viens de vous raconter.
Ouais.
Ce livre-là nous raconte justement le phénomène derrière, après ce que je viens de vous raconter, des droits télévision, comment fonctionnent les clubs européens autour de ces droits qui représentent, c'est l'ossature, clairement. Si aujourd'hui on n'a plus les droits télévision dans le football, on aura, d'un point de vue financier, un football totalement différent.
Oui. On le rappelle quand même, l'éditeur, c'est le Centre pour la Recherche Économique et ses applications, c'est le CEPREMAP.
Exactement.
C'est bien ça.
C'est quelque chose de très très pointu.
C'est ça.
C'est que des spécialistes.
Ils sont dans le 14e arrondissement de Paris, le CEPREMAP, ouais.
Voilà.
Et
Luc Arondel et Richard Duhautois viennent de sortir un nouveau livre aux éditions d'Ulm qui justement parle pour le coup de l'économie du football féminin. Qui est en plein essor, mais
ça serait pas mal, pourquoi pas les avoir aussi en plateau avec notre coach Tollé et revenir concernant le football féminin.
On va organiser
on va organiser cela, il y a pas de souci. On va s'attarder cette fois-ci sur encore le football business, le coach Tollé, mais là c'est le tout jeune gamin de Bondy qui n'est plus le joueur le plus cher du monde.
Time Sport.
Eh oui, selon le SIES, justement, quelle est la valeur de ce classement à juste titre selon vous? Parce qu'on nous a donné cette fois-ci Rashford qui passe devant le jeune français qui est Kylian Mbappé et pas mal de joueurs britanniques, sans oublier aussi quand même que nos joueurs français sont toujours là, bien présents. Abdel, Toto Bellozzo. Oui, ce classement quand même, il a fait froid dans le dos pour certains, mais aussi il a été savouré selon d'autres.
Ouais, par rapport à Mbappé, c'est vrai que le talent que c'est, malgré, moi je le répéterai jamais assez, les lacunes qu'il a à certains niveaux, notamment son jeu de tête, notamment son pied gauche, le fait qu'il n'utilise plus du tout sa vitesse pour déstabiliser les défenses, etc. Peut-être que ça lui a desservi dans ce classement. Après, il n'y a pas que le terrain dans ce classement-là. Je pense que peut-être les recherches en dehors font que la manière dont il parle, sa communication, etc. peut-être dérange, donc il perd des places au niveau du classement, voir Marcus Rashford en haut de ce classement-là, ça me fait penser aussi à au fait que malgré que ce soit un bon joueur, il y a ses actions qu'il a réalisées pour avec au Royaume-Uni, même où il a été décoré. Donc c'est un peu une bataille un peu différente que se livrent les deux joueurs, que ce soit sur le terrain ou hors terrain. Mais Rashford, on n'en parle pas assez, c'est un joueur d'un extrême talent qui est à Manchester depuis maintenant très longtemps, qui commence à s'imposer et devenir un cadre. Donc pour moi, voilà. Après Mbappé, pour moi, qui baisse en grade, je trouve ça normal. J'ai jamais été fan de sa communication et de toutes les choses qu'on peut lui, comment dire, les choses qu'on lui porte en fait. Je pense qu'il est pas assez jugé à sa juste valeur à des moments. On l'a vu exploser fort, on n'arrive pas à se remettre en question. Donc le fait de rétrograder, pour moi, c'est normal.
Ouais, justement, l'Observatoire du football du Centre international, je le rappelle, d'études du sport de Neuchâtel en Suisse, mais qui a publié son premier opus de cette année 2021. Est-ce qu'on peut justement s'attarder sur ce classement? Est-ce qu'il est réellement... Parce qu'il a été quand même beaucoup décrié par les observateurs du football. Hein,
mais justement, moi, j'ai vu, quand je vois Neymar qui descend à 32 millions... Bah là du coup j'ai un peu de mal à prendre au sérieux.
Oui,
après ça prend peut-être pas toutes les comment dire tout en compte. Il y a aussi la durée du contrat, plus le contrat est long et plus le joueur coûte cher.
Surtout cela.
Et puis après de manière générale ceux qui baissent en valeur c'est ceux par exemple qui sont vieux, qui ont 35 ans, qui baissent de niveau. Là voir Mbappé qui descend, Neymar qui descend. Après c'est un jugement sur les derniers mois.
C'est surtout sur le contrat.
Surtout sur le contrat. Oui. Mais par exemple Neymar en termes de niveau de jeu, je trouve ça quand même étonnant de le voir descendre à 32 millions. Enfin, je trouve ça exagéré. Mais après Mbappé, comme Abdel a dit, ça m'étonne pas qu'il descende parce que son niveau de jeu, enfin, il est pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre de lui.
Il progresse plus. C'est difficile.
C'est que avant, il montait en sa progression, elle s'arrêtait pas, tout simplement.
Croissant.
Et maintenant, c'est même pas de la, il stagne même pas, c'est qu'il progresse même plus. Et depuis au moins un an ou deux. Donc c'est inquiétant. Après le classement et sa valeur marchande,
ça
nous apprend rien parce que sur le terrain on le voit qu'il est en difficulté mais qu'il progresse plus en tout cas.
Mbappé 5e, Fernandes 4e du côté de Manchester United, Alexander-Arnold à Liverpool 3e, Haaland au Borussia 2e et Rashford première place.
Ouais, moi Bilal, ça me fait réagir ce genre de classement parce que c'est devenu un peu le mal du siècle, les classements. On a besoin toujours d'avoir des classements.
Toujours.
Il y en a qui ont l'air d'avoir des boulots passionnants qui sont payés peut-être très cher à nous pondre des classements. Et aujourd'hui, on a un classement des joueurs un peu comme, tu sais, à l'époque, l'Argus, tu sais, les voitures.
Ouais, c'est à peu près cela.
La cote des voitures.
Mais avec les footballeurs.
Avec des critères plus ou moins objectifs. La durée de contrat, toutes ces choses-là aujourd'hui entrent en compte pour donner une valeur marchande à un joueur. Et finalement, est-ce que ça va changer? Est-ce que les clubs, la vraie question, est-ce que les clubs qui achètent et qui revendent se réfèrent à ces cotes qui sont données? Je suis pas certain.
Neymar s'est écrit 32 millions, mais s'il est acheté par un club, il sera jamais acheté 32 millions. Donc, il y a beaucoup de choses qui accompagnent le joueur, même le sponsoring, tout ce qui entoure le joueur en fait. Donc,
bien sûr.
32 millions, c'est pour moi, c'est même pas un indicateur. Je trouve ça ridicule.
Bah, c'est bien pour ça que je dis, il y a des gens qui sont payés à faire des classements, qui finalement servent à faire peut-être des articles, des sujets comme on est en train de faire, finalement qui font parler, mais qui ne servent strictement à rien. Maintenant, concernant Mbappé et on va dire sa perte de valeur, je serais plus tenté de dire que c'est plus la bulle financière Mbappé qui est en train d'éclater et qui est en train de revenir peut-être à son niveau qui est le sien. Et quand on dit qu'il a arrêté de progresser, je suis pas d'accord. La seule chose qu'on a arrêté de faire, c'est arrêter de l'encenser de façon exagérée dans les médias. Parce que sans enlever la valeur qu'a ce joueur, ça reste un joueur de grande qualité. Pour moi, il n'a pas encore accompli des choses qui moi m'ont fait rêver. Il n'a pas encore accompli des choses ni en club. Alors même s'il y en a certains qui vont dire en Coupe du Monde, moi hormis un sprint
contre l'Argentine,
j'ai pas d'autres vrais souvenirs. et on va pas me dire qu'on va asseoir la notoriété d'un joueur autour de ce genre de fait.
Il y a pas trop de matchs, enfin à part par exemple bah comme tu dis le France Argentine, il y a pas et surtout avec le PSG, il y a pas de match référence.
Voilà.
Et justement ces matchs référence, c'est pas le quadruplé contre Lyon, c'est un grand rendez-vous en Ligue des Champions. Et à part quand il était on va dire venu de nulle part à Monaco contre City, contre Dortmund. D'accord, mais là au Paris Saint-Germain, on l'attend dans ces matchs justement.
Voilà.
Et en deux ans,
donc c'est l'emballement médiatique. Enfin, clairement, c'est l'emballement médiatique qui s'est arrêté et qui finalement, on est en train de trouver un.
Bah après, c'est normal. Peut-être qu'on a revu aussi à sa juste valeur. Faut redescendre. Ouais. Je pense que il y a beaucoup de personnes qui se sont identifiées à lui et on n'a pas voulu le toucher, etc. Après, attention, Mbappé, c'est un très très bon joueur de football. Le potentiel qu'il a est énorme, mais il en reste pas moins détestable quand il y a des déclarations, comme Valentin, il citait des matchs qu'il fait à Monaco. Certes, c'était une équipe en sur-régime avec tout ce qu'il y a, mais au PSG, il est quand même pas mal entouré. À chaque fois qu'il parle d'être décisif, il glisse ou il est pas là dans les matchs.
C'est
compliqué. Après, bon, l'équipe de France, voilà, c'était l'euphorie. Moi, je l'ai trouvé plutôt bon à la Coupe du Monde, personnellement.
J'ai pas dit qu'il était mauvais.
Non, dans la globalité. Après, oui, sortir un match ref, c'est vrai que c'est difficile, mais pour moi, pourquoi j'ai pas comparé tous les joueurs, par exemple. Pour moi, j'ai comparé Rashford, Mbappé. C'est un peu des personnes médiatiques qui sont un peu médiatisées, notamment par ce qu'ils font en dehors du terrain. C'est un peu le même profil de joueur entre guillemets dans l'idée. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de deux. Après,
non, mais ça aurait été plus objectif de parler de code de popularité que de valeur marchande finalement, parce que la valeur marchande. Voilà, Mbappé, comme je te l'ai dit, il a été surévalué. Faut pas oublier, on lui a quand même ramené. C'est quand même un comble. On lui a ramené peut-être l'une des plus grandes stars du football mondial qui est Pelé à Paris. C'est pas lui qui a été appelé, c'est Pelé qui est venu à lui. Il y a tout un emballement médiatique qui a fait de lui la future hyper grande star du monde. Alors que finalement, dans les faits, il y a pas de d'un point de vue factuel, il y a rien. Ou pas grand chose. J'irai pas rien parce que c'est pas vrai. J'ai pas envie de tirer sur Mbappé gratuitement. Je dis qu'il y a juste pas ce qu'on a prétendu.
Moi, je pense qu'il faut être patient. Il est dans pour moi, il est dans une phase où c'est pour moi, elle est logique. Elle est logique, sa phase, c'est que on n'attendait pas à voir un joueur français exploser à ce niveau-là aussi rapidement. Il a impressionné là durant notamment ses années à Monaco, la Coupe du Monde quand même, et puis certains matchs au Paris Saint-Germain. Et puis comme l'a dit Toto, c'est que à un moment ça redescend un petit peu, mais en même temps il a que 21 ans, c'est ça, 21, 22 ans.
Je suis persuadé que s'il n'y a pas l'emballement médiatique, 21, on parle même pas de récession.
21, 22 ans.
On parlera.
Le qui progresse plus, c'est vrai que sur certains points on s'attend à plus, mais on a voulu le comparer aussi à Messi, à Ronaldo. Donc à un moment Mbappé reste Mbappé, il va continuer à apprendre, même dans ces phases difficiles, le gamin apprend. Le gars apprend, il a que 22 ans. Souvent on donne une analyse d'un joueur, alors que les gars ont 6 mois, 1 an et demi, 2, 3 ans. T'as des joueurs, et c'est la majeure partie, qui ont entre 20 et 25 ans, sont plutôt bons sans être exceptionnels, mais à 28 ans explosent. Ça, on n'en parle jamais.
Mais c'est quand même à sa demande. C'est quand même à sa demande qu'il ne faut pas intégrer le fait de l'âge dans
notre grille
de
lecture. Bien sûr.
C'est quand même lui qui a
mais c'est ça. Donc forcément, t'es plus dur quand on te dit ça. C'est lui-même qui te dit parle pas d'âge. Donc forcément, t'es plus dur. Après, c'est vrai qu'il faut avoir un juste milieu entre les deux. Mais je suis pas forcément convaincu que, voilà, comme t'as dit, c'est fait aussi pour faire parler. C'est anecdotique dans le sens où si t'as envie de faire un classement toi et que t'analyses et que tu rajoutes un critère en plus, ça se trouve que le classement il va totalement changer. Donc après, c'est vrai que c'est pour donner des réactions, donner un peu des choses à manger, mais voilà, comme t'as dit, je suis pas forcément sûr que ce soit réel, objectif. Mais pour moi, dans la comparaison des deux joueurs que j'ai faite entre Rashford et Mbappé, je trouve qu'ils se rejoignent sur quelques points. Donc on peut se permettre de quand même les comparer.
Ouais, Valentin, peut-être quelque chose à rajouter concernant ce classement. On va parler de mercato après.
On essaie de trouver 10 000 raisons de ces performances. Moi, je sais pas, je me pose la question, j'arrive pas à savoir, mais est-ce que c'est peut-être le collectif, comme le collectif parisien est malade depuis un certain temps, est-ce que ça impacte aussi sur la performance individuelle de Mbappé?
Est-ce que Manchester a un meilleur collectif que le PSG?
Non, ils sauvent beaucoup par les individualités, c'est vrai.
Tu vois ce que je veux dire.
Non, mais t'as raison, c'est vrai que Manchester, c'est beaucoup de perfs individuels qui te font gagner match. Même Mbappé, le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas été souvent blessé et qu'au moment où Neymar n'était pas là, on l'a attendu avec toutes ses phrases, et pas que me parle pas d'âge, avec on sera là, faut les coronesses et tout. Et on ne l'a pas vu, malheureusement. Il était lui aussi en tribune, mais alors qu'il était censé être sur le terrain, et il avait été fantomatique. Donc, c'est là qu'on l'attend. Et je pense qu'il est quand même bien entouré, même quand il n'y a pas Neymar, même quand il y a pas mal de joueurs. Après, classement anecdotique.
Est-ce qu'un challenge en première ligue en Angleterre ne ferait pas le plus grand bien par rapport à son style de jeu, par rapport à son style, très très percutant, qui a besoin d'espace, qui a besoin de profondeur.
Avec la réforme, ça va être compliqué.
Contrairement avec la Ligue 1, qui est plus fermée.
Le débat.
Je pense justement qu'il a, pour moi, il a besoin d'un nouveau challenge. Ouais, et de voir réellement ce qui vaut au très haut niveau.
Le coach Tolé, en tout cas, on a une petite info concernant notre consultant Fred qui nous donne justement cela. C'est la première d'un des plus grands tacticiens espagnols, Marcelino, qui débute son premier match sur le banc de l'Atlético face au Barcelone. Ah, ça fait plaisir ça, Toto Bellozzo, et même à tout le plateau de Tamsport. Vous restez avec nous, on entamera la dernière partie de cette émission avec les rumeurs et le mercato hivernal.
Tamsport revient dans un instant. Beber FM, 19h-20h, Tamsport, avec Bilal Nenman.
Eh oui, dernière partie de cette émission qui est Tamsport, 19h-20h, le numéro du standard, le 01-53-48-3000, toujours en compagnie de Valentin, du coach Tolé, d'Abdel et son jumelier, notre Toto Bellozzo, et on s'attarde sur ce mercato d'hiver.
Tamsport.
Eh oui, et c'est Marseille, on a l'impression qu'il fait son petit train-train, son petit marché du côté de la Fiorentina en Italie, et donc qui envisage peut-être aussi des départs. Arsenal veut récupérer le fameux Draxler du côté du Paris Saint-Germain, ce qui peut-être conditionnerait l'arrivée d'Eriksen au Paris Saint-Germain. Là aussi, ça serait pas mal avec Dele Alli aussi, qui les tractations sont bel et bien là. Abdel, on t'écoute avec Valentin.
Pour moi, c'est jamais bien de. C'est vrai que t'as des hommes de base dans des clubs comme il a pu les avoir à Tottenham notamment. T'as cité Eriksen et Dele Alli, mais quand on voit ce qu'ils font actuellement, Dele Alli c'est banquette avec Mourinho, Eriksen c'est très moyen, voire très peu utilisé du côté de l'Inter, sachant que c'est deux coachs qui sont assez défensifs, qui demandent beaucoup de cavales, etc. à leurs joueurs. Donc c'est vrai que Pochettino, peut-être que s'ils viennent, il peut leur faire avaler un peu de la pilule, mais d'un niveau sportif, d'un niveau footballistique, je pense que pour l'instant c'est compliqué. Ils n'ont pas assez à retrouver leur niveau pour jouer au PSG, dans le sens où tu parlais de Draxler qui pourrait partir, autant garder Draxler qui est habitué au club, même s'il
joue pas,
mais c'est pour moi une erreur de pas le faire jouer, parce que c'est vrai que quand Tuchel est arrivé, on aurait pensé que la connexion allemande elle aurait pu se faire. Il a été mis de côté, on sait pas pourquoi, et d'un coup il est rentré en Ligue des Champions contre l'Atalanta ou contre Leipzig. D'un coup, il l'a remis sur le droit chemin. Mais après, voilà, je pense que dans un effectif qui est là, le nouvel entraîneur, forcément, il veut des joueurs. Je pense que c'est pas un coup énorme. Donc, il souhaite peut-être les enrôler. Mais moi, je suis pas pour les venues de l'un des deux. Et je pense que garder l'effectif, ça peut être pas mal. Après, à voir. Hein, c'est pas moi qui décide, mais c'est mon avis.
Après le PSG gagnerait.
Alors, le Paris Saint-Germain.
Je pense que si c'est le cas, le PSG gagnerait au change. Parce que même si Eriksen, quand il est passé, enfin, qu'elle était à Tottenham, il avait baissé en niveau. À l'Inter, il est plus désiré. Je pense que un joueur peut retrouver son niveau et se sublimer quand il est dans un collectif où il est dans des bonnes conditions. Donc ça peut être le cas. Ça, c'est des choses qu'on maîtrise pas. Mais au change, je trouve que au vu du niveau de Draxler, parce qu'on lui a donné quand même sa chance un moment, et quand on le voyait faire des entrées où il était fantomatique, il touchait pas un ballon. Je pense que c'est une bonne chose d'imaginer à Draxler retrouver un nouveau défi. Et que nous, on a cherché un milieu offensif un peu plus attractif, entre guillemets. Dele Alli aussi.
Il
y a des joueurs qui sont bons, on connaît leur potentiel.
Bien sûr.
Mais ils peuvent se perdre. Il y a un contexte aussi à mettre en avant. Et je pense que Dele Alli, Mourinho, il a jamais été fan du joueur. Il a toujours su, d'ailleurs, que Dele Alli, c'était pas un joueur d'entraînement. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as des joueurs qui cohabitent pas forcément avec des entraîneurs. Et qui ont une fin dans un projet. Donc Eriksen ou Dele Alli, Moi, c'est, je trouve ça séduisant. Après, parler de ça en mi-saison comme ça, je sais pas.
Un peu, ouais. Peut-être trop tôt. Oui, Toto. Le coach de Tolé.
Moi, écoute, je sais pas. En fait, alors, je suis en train de vous écouter. Là, mais vous parlez d'un Draxler, je ne connais absolument pas.
On a parlé de Draxler.
Je sais pas de qui vous parlez.
On a survolé l'Olympique de Marseille.
Très honnêtement, enfin, le seul Draxler que je connais, c'est Clyde Draxler, qui a joué à Portland aux États-Unis. Mais sinon, le joueur Draxler, pour moi, c'est un fantôme, c'est une énigme. J'aimais beaucoup son style en arrivant. Finalement, il a fait qu'arriver et rien d'autre. Je trouve ça dommage.
Parce que Neymar et Mbappé ont été recrutés 6 mois après. C'est bon, c'est bonne performance quand même.
C'est vrai que sa première saison, Draxler, tu parlais du PSG-Barça, là, le 4-0. Draxler était incroyable. Et d'ailleurs, il n'y avait pas Neymar et Mbappé, si je ne me trompe pas, à ce moment-là. Et Draxler était très très bon. C'était essentiel dans l'effectif. Mais là, il s'est perdu. Après, c'est aussi les choix du coach, leur système tactique. Donc après, il a pas été dans les plans de...
On a parlé du Paris Saint-Germain, on va s'attarder sur l'Olympique de Marseille aussi.
Time Time Sport. Le duel.
Ouais, le duel. Peut-être entre les supporters. Ça fait sourire Toto Bellozzo. Je sais pas pourquoi. Et même la direction de l'Olympique de Marseille. Que dire, coach Tollet. Marseille, là aussi, pas mal de tractations en douce se font.
Ouais.
Hein, c'est vrai.
Comme il s'appelle Pablo Longoria qui est arrivé
en fin de
mercato, oui, qui essaie d'être actif, qui
disait du bien, Juan Trossé,
qui travaille énormément. Mais de toute façon, ces mecs-là, quand ils occupent ce poste, travaillent au quotidien, mais travaillent aussi bien pour le mercato hivernal. Donc l'objectif, c'est de trouver un deuxième attaquant, de doubler les postes aussi de latéral. Et on prépare déjà aussi l'après, parce qu'on sait qu'on a, je crois, pas moins de 11 joueurs quand même en fin de contrat à Marseille. Donc tous ne seront pas renouvelés. On parle quand même de joueurs comme Amavi, comme Tovin, qui font partie de joueurs titulaires. Donc on travaille déjà sur l'avenir, mais tout dépend également aussi de la situation économique du football, dont on ne parle pas assez. Et je sais que, par exemple, concernant la prolongation peut-être de Tovin, on joue la montre. Parce que quelle sera la situation du football d'ici 6 mois, elle risque de pas mal évoluer. Donc oui, après, écoute, on verra bien.
Ouais, Melic de Naples.
15 millions, c'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup pour un mec qui arrive à 6 mois du terme. C'est un mec qui a été quand même qui a été blessé à 2 reprises de manière importante. Après, ça reste un joueur lorsqu'il retrouvera lorsqu'il sera de nouveau à 100%, peut faire du bien à beaucoup beaucoup d'équipes sur la scène européenne. Il n'a pas joué depuis le mois d'août, ça voudrait dire que si tu l'achètes, c'est temps de le remettre aussi en selle. Faut voir. Après, ce serait, oui, à l'avenir, ça peut être une bonne recrue, mais 15 millions là, ça me paraît quand même beaucoup. Donc du côté de Marseille, on regarde un peu à droite à gauche, on s'est renseigné sur la board, mais je crois que c'est très cher aussi.
Oui, c'est la board à Montpellier.
L'attaque de Montpellier qui joue ce soir
15 millions aussi.
Sur les attaquants, notamment la Fiorentina, voilà, on va...
S'il y a bien une chose que j'ai appris à faire avec le temps avec l'Olympique de Marseille, c'est de ne pas m'intéresser à leur mercato avant que quoi que ce soit signé.
Il faut laisser faire alors.
Faut laisser faire. Et puis très souvent, les rumeurs sont beaucoup plus
grosses.
Pas mal
de rumeurs du côté de la
réalité.
Hein.
On attend toujours Jardel, on attend toujours Maradona, on attend toujours tous ces joueurs qui ont été promis.
Maradona,
jamais,
c'était autre chose.
Ne sont jamais arrivés. Ouais. Maintenant, c'est vrai que ce qui aurait été bien et même souhaitable, c'est que si Monsieur Longoria a un vrai réseau, qu'il puisse d'abord recruter là où on a vraiment besoin, ça veut dire un poste de président à la place de Jean-Jacques Hérault.
Voilà, c'est un peu chaud, quoi.
Jacques-Henri.
Le ballon ses cordes, peut-être.
Jacques-Henri Hérault,
qui est dans le top 30 des Français, des Français les plus influents, dans le foot français.
Encore une fois, encore un classement qui a été fait par un organisme qui doit justifier peut-être son salaire. Mais en tout cas, voilà, moi, je reste persuadé que les choses commencent déjà par le renouveau, par exemple, du Paris Saint-Germain de ces derniers temps. Il vient avec Leonardo. Enfin, souvent dans les clubs, Séville, on a eu le retour de son directeur sportif historique. Et c'est souvent comme ça qu'on arrive à construire quelque chose. Et encore plus à Marseille, qui a besoin d'une tête de proue à ce poste-là pour pouvoir développer quelque chose derrière. On l'a vu avec Bernard Tapie, on l'a vu avec
Pabdou. On l'aura compris. Toi, c'est pas sur le stade, sur le terrain. Toi, c'est en dehors.
Non, après, non, c'est sur le terrain, mais ouais. Ça commence déjà. Alors, par quelqu'un qui respire le football et avec ses dernières déclarations de dire que finalement il y a trop de Marseillais à l'OM et de dire que ça influe sur quoi que ce soit, je trouve ça totalement déplacé. Discriminatoire et complètement hors football. C'est une logique de chef d'entreprise et pas de patron de club.
Oui, peut-être.
Ouais, non, pour rejoindre un peu avec Toto, Jacques-Henri Hérault, je pense qu'il va pas faire long feu, d'après quelques infos, et ça risque de bouger de nouveau du côté de Marseille dans les coulisses. Alors, on avait parlé il y a quelques mois notamment d'un rachat qui a pas eu lieu, enfin bref, peu importe. On sait que ça met en général du temps. Et ça fait partie en tout cas là des infos, et il y a certains dossiers.
Marseille sera racheté donc.
Marseille, il y a certains dossiers sur la table de l'actionnaire, et donc ça risque de bouger là dans les mois.
Alors Valentin,
les présidents à Marseille, ça n'a jamais été incroyable, et même sous les Dreyfus, à part Pape Diouf, moi j'ai pas le souvenir d'un bon président, en tout cas qui s'intéressait au football. Mmh. Jacques-Henri Hérault, je pense pas que ce soit un mec qui connaisse bien le football. Et d'ailleurs dans le foot français en général, il y en a pas beaucoup de présidents qui s'intéressent vraiment au football. C'est beaucoup de trading en tout cas chez les clubs. Et ça risque de perdurer.
Intéressant.
Mais par rapport au nom que tu as cité, moi je vais dire que c'est vrai que ça peut être intéressant, un club comme Marseille qui va faire son marché en Italie, notamment Coutronnet ou Milice, même si c'est un peu cher. Longoria, s'il vient, c'est qu'il a forcément un réseau, parce que pour aller dans des clubs aller chercher des joueurs tels que tels que ceux que tu as cités,
c'est difficile.
Pense que, contrairement à ce que dit Toto, même si c'est vrai que en grandissant les rumeurs, tu te calmes, tu t'empresses pas comme avant. Je pense que il a de la légitimité, et ça peut être des coups qui sont faits. Après voilà, peut-être c'est ces gros noms là, ça peut être d'autres mecs comme Malcuit qui est à Naples là, qui peut revenir en tant que latéral, etc. Il y a quelques joueurs, et faut recruter malin en fait, parce qu'ils ont dépensé de l'argent, jeté de l'argent par les fenêtres, qui avait pas lieu d'être. On parle toujours de la pépite qui est milieu gauche là, et qui a fait 3 matchs dans l'année, et ils auraient pu investir autre part.
Là où je vais rebondir sur ce que disait Claude concernant la revente du club, je pense que ça va revenir vraiment d'actualité, parce que c'est vrai que quand il y a eu les rumeurs de
c'est en train.
De rachat avec l'équipe d'Ajroudi, qui avait été incarnée par notre ami
Monsieur Boudjelal,
qui était porteur du projet. De toute façon, l'Olympique de Marseille n'aurait pas été revendu avant d'avoir joué la Ligue des Champions. Il faut bien se dire qu'il y avait une culbute à faire. En cas de bons résultats, la cote de l'Olympique de Marseille n'aurait pas été la même. Après, bon, là, force est de constater que je pense que la cote n'a pas dû changer, voire même a dû même descendre. Donc je pense, et voire même j'espère, voir des dossiers de rachat de l'OM.
C'est dans les tuyaux, en tout cas. J'ai quelques infos, en tout cas c'est dans les tuyaux. Là on n'en parle pas comme ça, mais ça a toujours été. C'est-à-dire que même quand l'incendie s'est un petit peu éteint, en réalité on sait très bien qu'il y a un jeu médiatique aussi. Alors malheureusement, ça n'a pas été les meilleurs à ce niveau-là en termes de com, mais on sait que ça traîne en longueur, ça se fait pas comme ça, mais ça parle.
On rappelle aussi,
il y a du dossier
en Angleterre, Mesut Özil proche de s'engager avec Fenerbahçe, et sans oublier aussi chez nos confrères de El Chiringuito, Sergio Ramos justement aurait déclaré que au PSG, on me dit qu'on va faire une grosse équipe avec Messi et moi. Voilà.
Ouais.
Il reste du business.
J'y crois pas une seconde, moi.
Il n'y croit pas. Toi, tu y crois, Toto Bellozzo, avant la fin de cette émission rapide.
Deux secondes.
Abdel, concernant cela.
Par rapport
à Ramos.
Qu'est-ce que dit Ramos?
C'est vrai.
Ouais, c'est vrai.
Allez, ils vont renégocier son contrat,
On verra, on verra bien. En tout cas, la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM avec Café des Arts, System Morad. Et nous, on se retrouve dès demain à partir de 19h. Un grand merci à toute l'équipe de Time Sport.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.